Quand on pense à la géopolitique, on s'imagine souvent un monde hyper lointain et très abstrait.
Ouais, complètement déconnecté de notre réalité.
C'est ça, des diplomates en costumes sombres dans des salles feutrées.
Avec d'immenses cartes étalées sur des tables en acajou.
Exactement, de longues poignées de main formelles, ce genre de choses. On a l'impression d'observer une machinerie gigantesque, complexe, mais au fond, totalement invisible dans notre vie de tous les jours.
Jusqu'à ce que ça nous frappe de plein fouet.
Voilà. Et on ne se rend compte que cette machinerie tourne à plein régime que lorsqu'un voyant rouge s'allume soudainement sur notre propre tableau de bord. Comme, par exemple, le prix qui s'affiche à la pompe à essence du coin de la rue.
C'est une excellente façon de le formuler. Pour comprendre notre quotidien économique actuel, la pression sur le pouvoir d'achat ou même le coût d'un simple trajet en voiture, il faut paradoxalement lever les yeux.
Et regarder loin vers l'est, c'est bien ça.
Absolument. Ce qui se décide ou ce qui se déchire à des milliers de kilomètres dicte de manière quasi mathématique ce que notre audience paie à la caisse.
Et c'est exactement la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va plonger dans les dossiers d'analyse du magazine iDébat numéro 24.
Une édition datée du 27 mars 2026, pour être précis.
Tout à fait. L'objectif de cette immersion,
C'est de comprendre les mécanismes, étape par étape. Décortiquer comment un véritable séisme régional au Moyen-Orient crée une onde de choc qui traverse les océans.
une onde de choc qui vient frapper directement le portefeuille local. Ouais. Et surtout, on va observer comment la société, des institutions jusqu'à la jeunesse, s'organise face à cette nouvelle réalité. Bon, déballons tout ça.
Allons-y.
Pour comprendre cette fameuse inflation locale, il faut commencer par regarder tout en haut de la pyramide. Il y a une sorte de grand échiquier au Moyen-Orient. Et apparemment, les règles du jeu viennent de changer radicalement.
En effet, l'architecture régionale est en pleine mutation et s'est impulsée par une logique diplomatique assez inédite, décrite dans les sources.
Inédite comment?
D'un côté, on a l'administration américaine, dirigée par Donald Trump, qui assume très ouvertement de monnayer sa protection militaire.
Donc on n'est plus du tout dans une diplomatie d'influence classique.
Non, c'est terminé. On est dans le transactionnel pur. C'est donnant-donnant. Et les chiffres qui circulent dans le dossier donnent le vertige. On parle de plus de 2 000 milliards de dollars d'engagements régionaux.
C'est colossal, hein. C'est presque difficile à conceptualiser. Comment on répartit 2 000 milliards sur le terrain?
Le découpage est ultra stratégique. Le magazine détaille 600 milliards d'accords avec l'Arabie Saoudite, la part du lion avec 1,2 billion pour le Qatar.
1,2 billion. Ah ouais.
C'est énorme. Et environ 200 milliards avec les Émirats arabes unis. Et en échange de ces sommes, Washington garantit un parapluie sécuritaire.
Et j'imagine que si ce parapluie est si cher, c'est parce que les tensions sont à leur paroxysme en ce moment.
Exactement. Parce qu'en face de cet axe, on a Israël qui perçoit l'Iran non pas comme un simple rival régional, mais vraiment comme une menace existentielle absolue.
Sur le plan nucléaire.
Nucléaire et balistique, oui. Une menace qu'Israël estime devoir neutraliser à tout prix.
Et c'est là que je trouve la position des pays du Golfe fascinante, d'après les sources. Ils sont coincés au milieu. J'aime bien imaginer ça comme une partie de poker à très haut risque.
C'est une très bonne image.
Genre, on a un joueur qui a absolument tous les jetons sur la table, c'est Washington. Un autre joueur tient une arme chargée.
Et menace de s'en servir.
Voilà, ça c'est Israël. Et les autres joueurs autour de la table, les monarchies du Golfe, essayent désespérément d'éviter que le casino tout entier ne prenne feu.
Exactement. Ils veulent bien qu'on intimide un joueur, mais pas que la table brûle.
C'est tout à fait ça.
Parce qu'ils ont une mémoire très vive de ce qui se passe quand les choses dérapent. Le dossier rappelle notamment les attaques dévastatrices de 2019 sur les infrastructures pétrolières d'Aramco.
Ah oui, c'était un choc majeur.
Aujourd'hui, la priorité absolue de capitales comme Riyad ou Abu Dhabi, c'est leur propre développement interne. Ce sont les immenses projets de diversification économique, la vision 2030 ou encore la construction de la ville futuriste de Neom.
Et une guerre totale réduirait tout simplement ces ambitions en cendres ?
Complètement.
Mais attendez, en lisant ces documents, il y a un détail qui m'a fait tiquer.
Lequel ?
Les rédacteurs expliquent que la condition saoudienne officielle pour une normalisation avec Israël, c'est la création d'un État palestinien.
Oui, c'est ce qui est affirmé publiquement.
Alors, ne sommes-nous pas en train de surinterpréter le rôle de l'Iran dans cette équation? Pourquoi on se focalise autant sur Téhéran si la Palestine est la condition?
Ce qui est fascinant ici, c'est précisément le décalage entre la posture diplomatique publique et les rouages de la réelle politique en coulisses.
D'accord, donc il y a un double discours.
En quelque sorte, oui, la position officielle exige des garanties pour la Palestine. C'est une ligne rouge historique, incontournable, pour Riyad, face à son opinion publique et au monde arabe.
Logique.
Mais dans les calculs stratégiques froids, c'est bien l'Iran qui est la variable décisive motivant ces rapprochements. Une Arabie saoudite garantie par un verrouillage sécuritaire américain face à un Iran affaibli, ça transforme radicalement son environnement.
Donc tout le monde autour de cette fameuse table de poker partage l'intérêt de contenir l'influence iranienne?
Voilà. Mais personne ne veut être celui qui encaisse le choc direct.
Et si les monarchies du Golfe sont si terrifiées à l'idée que le casino s'embrase, c'est parce qu'elles savent pertinemment que l'Iran tient la porte de sortie de ce casino.
La seule porte de sortie, effectivement.
Et cette porte, elle s'appelle le détroit d'Ormuz.
Le fameux goulet d'étranglement. C'est sans conteste le cœur battant du commerce pétrolier mondial. Les données compilées dans l'analyse sont implacables.
Les chiffres sont dingues, oui.
On part de 21% de la consommation mondiale de pétrole qui transite par ce petit bras de mer au quotidien.
21%, c'est énorme.
Et un détail crucial souligné par l'article, pour bien mesurer l'impact, 76% de ces volumes massifs sont destinés au marché asiatique.
Donc plus d'un cinquième du pétrole mondial passe dans un espace qui est, géographiquement parlant, minuscule.
Très très étroit, oui. Et c'est justement cette géographie qui crée une friction juridique permanente.
Comment ça ?
Selon le droit international, et particulièrement la Convention de Montego Bay, qui définit les limites maritimes à 12 000 marins des côtes,
oui.
Eh bien, ces eaux sont partagées entre le Sultanat d'Oman au sud et l'Iran au nord. Il n'y a pas de zone internationale au milieu. Les eaux territoriales se touchent directement.
Ce qui veut dire que les navires qui passent par là naviguent techniquement dans les eaux iraniennes ou omanaises.
Tout à fait. Mais le problème majeur, c'est que les États-Unis n'ont jamais ratifié cette convention.
Ah, d'accord, je l'ignorais.
Pour Washington, il s'agit d'un détroit international avec un droit de transit sans entrave. Et cette divergence juridique justifie, selon eux, une surmilitarisation de la zone avec le déploiement de porte-avions et la création de multiples bases.
Et j'imagine que l'Iran ne voit pas ça d'un très bon œil.
C'est le moins qu'on puisse dire. Face à cette armada classique américaine, l'Iran a compris qu'il ne pouvait pas rivaliser avec de gros navires de guerre.
Alors, quelle est leur stratégie ?
Ils ont développé ce que l'analyse qualifie de doctrine de guérilla sur l'eau.
C'est-à-dire ?
C'est une guerre asymétrique. Ça implique des nuées de drones, des vedettes ultra-rapides, des opérations de minage marin et même l'utilisation de mini-sous-marins.
Ok. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on regarde la structure économique de l'Iran, la publication indique que 90% du propre pétrole brut iranien passe aussi par ce détroit d'Ormuz.
C'est exact.
Alors, logiquement, si l'Iran décide de bloquer ce passage avec des mines pour punir l'Amérique ou ses voisins, ils ne sont pas littéralement en train de s'étouffer eux-mêmes en coupant leurs propres exportations.
C'est le paradoxe apparent. Mais en fait, il faut comprendre la mécanique de leur stratégie. Leur objectif n'est pas de fermer hermétiquement le détroit.
Ah bon ?
Non, car un blocus total serait effectivement un suicide économique immédiat pour Téhéran, sans compter que des alliés ou partenaires comme l'Irak et le Qatar en seraient les premières victimes.
Ce qui n'aurait aucun sens pour eux.
Exactement. Non, leur stratégie repose sur la logique pure de la dissuasion.
C'est-à-dire, comment on dissuade sans bloquer ?
En instillant une incertitude permanente. Il suffit que l'Iran harcèle quelques pétroliers, déploie quelques mines de façon sporadique ou arraisonne un navire de temps en temps.
Pour faire paniquer les marchés ?
Voilà. Les primes d'assurance maritime explosent instantanément. Quand les assurances flambent, le coût du fret flambe et le cours du baril sur les marchés mondiaux s'envole.
C'est machiavélique.
L'Iran n'a pas besoin de couler des bateaux tous les jours. Ils envoient simplement un message très clair. Si vous décidez de nous attaquer, nous avons le pouvoir de rendre le prix psychologique et économique insupportable pour l'ensemble de l'économie globale.
Donc, ils projettent l'image d'une superpuissance intouchable, capable de tenir le monde en otage ?
C'est la vitrine, oui.
Mais quand on tourne les pages de l'analyse, la réalité intérieure semble raconter une histoire totalement différente. On a l'image d'un empire conquérant avec des missiles, mais c'est plutôt une forteresse dont les murs extérieurs sont lourdement blindés.
Tandis que les planchers s'effondrent à l'intérieur. C'est l'illusion de la puissance.
C'est fou de voir ce contraste.
La géographie et la démographie sont des réalités têtues. Premièrement, l'Iran est un pays persan entouré d'États arabes, ce qui complique naturellement ses ambitions d'hégémonie régionale.
C'est un isolement naturel ?
Oui. Et deuxièmement, c'est une mosaïque ethnique très complexe. On y trouve des Azéris, des Kurdes, des Baloutches, des Arabes.
Et ça crée des tensions.
Énormément. Cette diversité, qui pourrait être une richesse, devient une immense ligne de fracture quand le gouvernement central impose une pression sécuritaire et économique insoutenable.
Et en parlant de pression économique, les chiffres cités sont carrément alarmants.
On est sur une crise systémique profonde. Les projections du FMI mentionnées pour l'année 2025 évoquent une inflation dépassant les 40%.
40%? C'est inimaginable!
Concrètement, ça détruit la classe moyenne. L'article note qu'un tiers de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté.
C'est tragique.
Et par-dessus le marché, il y a un désastre écologique qui ne fait pas souvent les gros titres, mais qui est dévastateur. Des pénuries d'eau chroniques qui poussent des millions de personnes à l'exode rural intérieur.
Ce qui crée des ceintures de misère autour des grandes villes, j'imagine.
Absolument.
Et ce chaos interne est aggravé par des revers géopolitiques massifs, très récents. Le dossier rappelle l'effondrement de Bachar al-Assad en Syrie en 2024.
Un coup dur qui a brisé l'arc d'influence de l'Iran vers la Méditerranée.
Ouais, on note aussi l'affaiblissement drastique de leurs relais comme le Hezbollah et le Hamas. Et puis, il y a ce séisme politique majeur, tout récent. La disparition du guide suprême Ali Khamenei, fin février 2026.
Si on relie ça à une vision plus globale, on voit un système idéologique à bout de souffle.
Un système qui n'arrive plus à se renouveler.
C'est ça. La République islamique s'est bâtie sur l'exportation de la révolution de 1979. Aujourd'hui, cette idéologie n'offre aucune réponse à une jeunesse iranienne qui souffre du chômage, du manque d'eau et de l'isolement international.
Et ce qui est souligné dans les documents, c'est l'émergence d'une véritable alternative structurée, n'est-ce pas?
Oui. Les analystes décrivent une résistance intérieure de plus en plus organisée, portée notamment par des structures comme le Conseil national de la résistance iranienne, le fameux CNRI.
Et que demandent-ils exactement?
Leur revendication centrale, c'est la mise en place d'une assemblée constituante pour repenser complètement l'État. Et c'est un point capital souligné par le dossier. La transition démocratique espérée ne viendra pas de bombardements extérieurs.
Personne ne veut appuyer sur le bouton rouge.
Non, car personne dans la région ne souhaite une intervention militaire directe qui pourrait déstabiliser tout le Moyen-Orient ou, pire, risquer l'utilisation d'une bombe sale.
Donc le changement, s'il arrive, viendra du peuple lui-même.
Le changement ne peut émerger que de l'intérieur, par l'effondrement d'un système qui ne tient plus ses promesses fondamentales.
L'onde de choc arrive jusqu'à nous.
Comment ça?
Parce que quand cette forteresse chancelante joue avec les nerfs du marché mondial dans le détroit d'Ormuz, la secousse traverse la Méditerranée et vient frapper de plein fouet l'économie locale.
Ah oui, l'effet domino.
Exactement. Le dossier se penche longuement sur le cas du Maroc pour illustrer ce phénomène.
C'est vrai, c'est le cas l'école parfaite de la vulnérabilité aux chaînes d'approvisionnement mondiales.
Complètement. Dès que la fièvre monte à Ormuz, les répercussions en Maroc sont immédiates et brutales. Les relevés montrent une augmentation soudaine d'environ 2 dirhams pour le litre de gasoil.
Et 1,5 dirhams pour l'essence d'après les chiffres.
On parle d'un bond d'environ 20% en un temps record. Pour un ménage moyen ou pour une entreprise de logistique, c'est un choc financier majeur.
Et surtout, cette crise a agi comme un révélateur. Elle a mis en lumière des failles structurelles profondes.
La plus évidente de ces failles, c'est la gestion des réserves stratégiques. Honnêtement, c'est presque un scandale en soi quand on lit les détails.
Vous faites référence à la législation sur les stocks.
Ouais. Il y a une loi très claire au Maroc, la loi 0971, qui exige que le pays dispose de 60 jours de réserve de sécurité en hydrocarbures.
C'est le seuil légal de précaution.
Et là, en pleine tempête internationale, on découvre que les stocks ne couvrent que 30 jours.
La moitié du seuil légal.
C'est dingue! Comment un État peut-il se retrouver dans une telle situation de vulnérabilité? Surtout avec le dossier toujours en suspens de la raffinerie Samir, qui est fermée et qui ampute le pays d'une capacité de raffinage et de stockage essentielle.
C'est une défaillance de prévoyance qui se paie comptant.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et face à l'urgence et à la colère sociale naissante, l'État a dû réagir dans la précipitation, comme le soulignent les rapports. La première mesure gouvernementale a été de distribuer des subventions directes aux professionnels du transport.
L'idée semblait plutôt logique sur le papier, non?
En théorie, oui. Si on aide financièrement les camionneurs et les transporteurs, ils n'auront pas besoin d'augmenter leurs tarifs et l'inflation ne se répercutera pas sur les prix des marchandises dans les supermarchés.
Sauf que l'analyse démontre que ça a été un échec total. Mais pourquoi? Si l'État compense la perte, pourquoi les prix ont-ils quand même flambé pour le citoyen lambda?
À cause de ce qu'on appelle en économie un effet d'aubaine.
Un effet d'aubaine?
Oui. Concrètement, imaginez un transporteur dont les coûts de carburant augmentent de 10 000 dirhams sur un mois.
Ok, je vois.
L'État lui verse une subvention de 10 000 dirhams pour compenser. En théorie, il est à l'équilibre.
Tout va bien du coup.
Mais dans la réalité d'un marché très peu régulé, ce transporteur encaisse la subvention publique et décide quand même d'augmenter ses tarifs de livraison.
Mais c'est illégal.
Pas forcément illégal, mais c'est opportuniste. Il explique à ses clients que c'est la crise mondiale, tout augmente.
Ah, je vois. L'intermédiaire empoche l'argent public pour protéger sa propre marge.
C'est ça.
Finance la subvention et on repaie par le prix des tomates qui a doublé au marché.
Exactement. L'aide publique est captée par une catégorie professionnelle sans jamais ruisseler pour geler les prix finaux.
Quel gâchis.
C'est pour cela que les experts du dossier proposent un changement de paradigme complet.
Lequel ?
Ils suggèrent d'abandonner ces subventions ciblées et de passer par une modulation directe de la fiscalité.
Bon, concrètement, ça veut dire quoi ?
Baisser la TIC, la taxe intérieure de consommation, et abaisser la TVA sur les carburants.
Qu'est-ce que ça signifie au fond ? L'État renonce simplement à ses rentrées d'argent ?
C'est une baisse de recettes, oui.
Mais attendez, si le gouvernement baisse la TIC et la TVA de, disons, 2 dirhams,
oui.
Qu'est-ce qui empêche les grandes compagnies de distribution de carburant de maintenir les prix à la pompe au même niveau et d'absorber ces 2 dirhams pour gonfler leurs propres bénéfices ? On remplace juste un effet d'aubaine par un autre, là.
C'est la critique majeure de ce modèle et la publication ne l'élude absolument pas. L'avantage de la baisse des taxes, c'est que c'est universel et transparent.
C'est-à-dire ?
La baisse s'affiche théoriquement directement sur le totem de la station-service, pour le camionneur comme pour l'étudiant.
D'accord, c'est plus visible.
Mais, et c'est un mais gigantesque, cela ne peut fonctionner qu'avec une condition sine qua non.
Laquelle ?
Un contrôle strict, rigoureux et implacable de la concurrence et des marges des distributeurs par les autorités de régulation.
Il faut donc un gendarme économique très très puissant.
Exactement. Ce qui est proposé ici, c'est de redéfinir un véritable contrat social autour de l'énergie.
Un contrat social ?
Oui. L'État accepte de faire un sacrifice financier sur ses recettes fiscales, à court terme, pour protéger le pouvoir d'achat et maintenir la paix sociale.
D'accord.
Mais en échange, il doit avoir les moyens de garantir que les acteurs privés du marché jouent le jeu de la transparence et ne transforment pas cet effort national en une rente de situation.
C'est tout un équilibre à trouver. Et face à cette incapacité chronique à gérer les chocs, face à cette inflation, à ces pénuries de stocks, à ces subventions mal calibrées, il y a une frustration palpable.
Oh que oui.
Et ce qui m'a surprise dans la dernière partie de l'analyse, c'est la réaction de la jeunesse face à tout cela. On a souvent ce cliché persistant d'une jeunesse dépolitisée, un peu apathique.
Qui ne s'intéresse qu'à ses écrans, c'est ça.
Voilà. Mais la réalité décrite dans le dossier est bien différente.
Totalement différente. Les documents montrent que les jeunes ne désertent pas l'engagement citoyen. Ils fuient simplement les structures archaïques.
Ils vont où alors ?
Ils ont massivement déplacé leur énergie vers le tissu associatif, les ONG ou le militantisme numérique, où ils voient un impact direct de leurs actions.
Et j'imagine que les partis traditionnels voient ça d'un très mauvais œil.
Face à cette hémorragie de talents, les partis politiques traditionnels marocains ont compris qu'ils devaient évoluer ou disparaître.
C'est une question de survie politique, quoi. Le dossier cite des exemples précis.
Oui, on voit des initiatives intéressantes, comme celle du parti Authenticité et Modernité, le PAM, avec son programme GIL 2030.
Ah oui, la génération 2030.
C'est ça. Mais l'analyse s'attarde particulièrement sur la mue du parti L'Istiklal.
Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial ?
Ils ont mis en place ce qu'ils appellent la charte du 11 janvier, ou Mitak Shabab. Et ils ont créé une véritable académie de la jeunesse.
Honnêtement, quand je lis des termes comme « académie » ou « charte de la jeunesse », mon radar cynique s'active instantanément.
Je comprends parfaitement.
Est-ce que c'est pas juste du vernis ? Genre un doux coup de communication pour rafraîchir l'image de parti un peu vieillissant à l'approche des prochaines élections ?
Ça soulève une question cruciale sur la sincérité du monde politique, c'est indéniable. Mais ce que l'étude souligne, c'est qu'il y a un changement structurel de fond.
Lequel ?
Historiquement, la jeunesse dans un parti, c'était une logique descendante. Les vieux ténors prenaient les décisions et les jeunes servaient de main-d'œuvre pour coller des affiches ou remplir des salles de meeting.
Et c'était juste un vivier électoral corvéable.
Exactement.
Et qu'est-ce qui change concrètement aujourd'hui avec ces nouvelles chartes jeunesse ?
On passe à une logique de co-construction. L'analyse montre que les jeunes refusent désormais d'être de simples exécutants.
Ils veulent de vraies responsabilités.
Ils intègrent ces partis à condition de participer à la rédaction des programmes économiques, de penser la transition écologique, d'avoir un vrai poids.
Et on comprend pourquoi.
Bien sûr, parce que cette génération a grandi avec les crises complexes que nous venons de décrire.
Ils n'ont pas connu les Trente Glorieuses.
Non, ils comprennent l'hyperconnexion du monde. Ils savent que s'ils ne trouvent pas de travail ou si le carburant est trop cher à la pompe locale...
C'est pas qu'un problème de gestion municipale.
Voilà. C'est lié aux tensions dans le détroit d'Ormuz, aux accords de Trump ou à l'inflation mondiale. Ils exigent de l'efficacité, de la cohérence globale et ne se contentent plus de belles paroles.
C'est un réveil hyper pragmatique en somme. Eh bien, quand on prend un peu de recul pour observer le chemin qu'on vient de parcourir aujourd'hui, c'est vertigineux.
On comprend à quel point tout l'écosystème mondial est imbriqué.
Ouais. On a commencé par décortiquer des accords astronomiques de milliards de dollars initiés par Donald Trump pour remodeler l'équilibre du Moyen-Orient.
Ensuite, on a navigué dans les eaux sous très haute tension du détroit d'Ormuz.
Où une guerre asymétrique de l'ombre menace d'asphyxier tout le commerce mondial, oui. On a aussi exploré les failles d'un régime iranien pris au piège entre ses ambitions impériales et son propre effondrement économique interne.
Un effondrement qui trouve un écho direct et concret dans notre quotidien.
Absolument. Car toute cette géopolitique soi-disant lointaine a fini par atterrir violemment sur nos propres factures d'essence.
Ce qui a dévoilé les graves fragilités de nos réserves stratégiques.
Et les limites flagrantes de nos politiques de subvention. Ce qui, en bout de chaîne, pousse toute une nouvelle génération à reprendre le chemin de l'engagement politique pour exiger de véritables solutions structurelles.
C'est un effet domino fascinant.
C'est clair. La géopolitique n'est jamais confinée dans ces fameuses salles feutrées dont on parlait au tout début. Elle est dans le moteur de nos voitures, dans nos supermarchés, et elle finit toujours par se retrouver dans les urnes de nos élections.
C'est un résumé parfait. Et pour prolonger un peu la réflexion de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a une idée puissante qui émerge en filigrane de toute cette analyse.
Laquelle ?
Si le bien-être économique de nos foyers, la stabilité de nos prix et même la paix sociale locale sont à ce point vulnérables à ce qui pourrait se passer demain matin dans un seul petit bras de mer situé à des milliers de kilomètres...
C'est vrai que c'est effrayant quand on y pense.
La véritable souveraineté nationale du futur, est-ce qu'elle ne consistera pas tout simplement à organiser l'abandon définitif des énergies fossiles importées ?
Ah, intéressant.
Ne vaut-il pas mieux investir massivement dans notre propre indépendance énergétique verte plutôt que de dépendre d'alliances militaires ultra coûteuses et de subventions qui ne font que panser des blessures chroniques ?
C'est une excellente question pour clôturer notre immersion. La prochaine fois que le voyant de la réserve d'essence s'allumera sur votre tableau de bord, vous saurez qu'il est connecté par un fil invisible à une machinerie bien plus vaste que votre simple station-service de quartier. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse. Gardez toujours cet esprit critique, restez curieux des rouages du monde, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.